Moi j'ai une question vraiment qui peut nous amener d'ailleurs au sujet dont on va débattre ensuite, mais qu'est-ce qui reste vraiment, quel avenir reste-t-il vraiment pour White Wolf dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus que ce qui a déjà été fait en fait? Est-ce qu'ils n'ont pas épuisé finalement leur matériel, leurs sources?
On répond à cette question dans la partie.
Je pense que c'est un débat quand même un petit peu large quand même pour être quand même répondu en 5 minutes, mais je ne sais pas si en tout cas il n'y a plus rien à faire. Moi je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, qu'ils n'ont pas épuisé leur créativité. Par contre, effectivement, ils ont l'air, eux, de dire qu'ils sont peut-être arrivés au bout d'un certain processus, parce que effectivement, le fait de ne pas proposer de nouveaux jeux, c'est une manière de dire...
Oui, mais alors,
je vois pas effectivement ce que je peux vous proposer.
Et en même temps, est-ce que nous, parce que pour moi, on en parlait un peu avant, Daniel. Pour moi, le monde des ténèbres, l'idée, c'est d'avoir des créatures un peu classiques, donc le vampire, le loup-garou, le magicien, la fée, le fantôme. Qu'est-ce qui reste vraiment, ange, démon? Donc c'est déjà couvert dans Inferno. Enfin, en tout cas, les démons et les aliens.
Le
Dahu.
Quoi?
Le Dahu. Le Dahu. Donc je sais pas, moi personnellement, enfin déjà ça a toujours été une critique du MDT d'avoir trop de créatures, d'être surpeuplé, de pas avoir assez finalement, enfin on se demande où sont les humains. Est-ce qu'on a envie d'avoir vraiment des rééditions, genre un Vampire 3, Monde des Ténèbres 3, ça va encore scinder en plus?
Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est assez marquant, en tout cas dans les éditions des gammes limitées, c'est qu'à partir de Hunter, il y avait de moins en moins de suppléments. Hunter avait moins de suppléments que Changelin, et Geist en avait quasiment carrément moins, puisqu'il en avait un.
Même zéro, théoriquement.
Même zéro, théoriquement. Quoi.
Théoriquement, officiellement, ouais, Book of the Dead est un supplément pour la gamme World of Darkness et voilà, pour la gamme Geist.
Thématiquement lié à Geist.
En fait, en pratique, c'est le supplément.
En pratique, tu peux. Voilà. Book of the Dead est à peu près inexploitable si t'as pas Geist.
Voilà. D'ailleurs, le nom, s'ils n'avaient pas déjà fait un peu ça avec Book of Spirits. C'est quand même très marqué par Loup-garou Wolves of Forsaken, donc Loup-garou les déchus, puisque c'est l'un des derniers jeux qui était traduit en français.
Et puis je sais pas, est-ce que. Donc on dit là, bon, il n'y a pas grand chose qui sort, mais est-ce qu'il y aurait vraiment des extensions dont on aurait vraiment besoin maintenant, enfin...
Bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, faut arrêter.
Enfin,
je veux dire, Pierre vient de dire il y a 2 minutes que lui il attend quelque chose qui traite de vampires au Moyen-Âge, donc une espèce d'équivalent de la Dame Dark Ages en MDT1 par exemple. Moi je pense qu'il y a effectivement il y a beaucoup de choses encore à faire.
Dark Ages, c'est intérêt en même temps.
Décider de ne pas le faire, donc, effectivement c'est leur choix. Que ce soit pas forcément facile, là je suis à peu près d'accord, parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, et trouver un monstre, un gros monstre populaire à exploiter, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais oui, il y a encore d'autres choses à faire.
Ce que je comprends pas, moi, enfin ce que je comprends toujours pas, c'est cette volonté de sortir finalement des romans. Là, je viens de voir Strangeness, mais c'est pour vampires finalement, Strangeness, c'est ça hein?
Exactement.
Je comprenais pas.
C'est un roman pour vampires.
C'est un roman pour vampires. Et donc ils vont faire une saga pour vampires, Strangeness. Se concentrer donc sur la partie roman. Bon, ils pourraient faire ça pour toutes les gammes, hein, pas seulement pour vampires, pourquoi pas. Et oublier finalement que Vampire le Requiem, c'est quand même un jeu qui se développe surtout sur l'aspect historique. Hein, un vampire, en tout cas dans Requiem, et je pense même dans Mascarade, ça progresse à travers l'histoire.
Est-ce qu'il y a un public qui est suffisant pour valider des gammes historiques?
C'est le premier public quand même, historiquement justement, qui connaît le monde des ténèbres par Vampire. Hein, bon, je parle aussi de la première édition.
Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie d'être des vampires sans se prendre la tête, tu vois, genre parce que le mythe du vampire est intéressant, mais qui ont envie de jouer ça dans un cadre moderne. Est-ce que ça valide
moderne, il faut jouer à Twilight RPG.
Oui, non, c'est ça. C'est ça. Ils ont, même dans le système de jeu, si tu veux, c'est que dans le système de jeu, ils ont entre guillemets, ils forcent les joueurs à commencer avant l'époque moderne. Ou alors à faire des retours en arrière, à faire des flashbacks, puisque le vampire ne peut a finalement 500 ans devant lui pour évoluer. Et ils ont jamais, à part en effet Fall of Camaria et Requiem for Horror, ils ont jamais.
Et New Wave.
Et New Wave, Requiem
pour ceux qui aiment les années 80.
Ils n'ont jamais donc réussi à faire quelque chose de constant par rapport à ça.
C'est quelque chose d'un peu paradoxal de se dire que. Finalement, dans Requiem, on a des personnages qui ont plusieurs siècles, et qu'on n'a aucun moyen, aucune aide finalement pour les créer de manière crédible en leur donnant un contexte de ce que pouvait être leur vie quand ils ont démarré. Bon. Donc, voilà.
Moi je vois deux côtés de la médaille vraiment là-dessus. D'un côté, effectivement, des joueurs qui sont vraiment avides d'informations et qui ont envie d'avoir vraiment les moindres détails sur leur univers, mais aussi les gens qui disent, ben, par exemple, Sion, pour moi c'est bien parce qu'il y a juste 3 bouquins et j'ai pas envie d'avoir toutes ces extensions parce que je trouve qu'ils en font trop, je comprends pas, il y a des trucs qui servent à rien ou ils se répètent et finalement je suis plus séduit par les gammes limitées quoi.
Pour revenir pour les suppléments historiques, premièrement, de toute façon un supplément historique déjà serait très basé pour Vampire d'une certaine manière, même si des joueurs veulent, même si des joueurs de Garou sont partant pour faire une chronique moyenâgeuse. Et puis il faut rappeler, par exemple, ils avaient White Wolf avait sorti 2 suppléments géographiques, c'était World of Darkness, enfin Shadow of Mexico et Shadow of UK, qui s'étaient pas très bien vendus, je crois.
Il y avait aussi Chicago.
Oui, mais Chicago, alors, Chicago, ça par contre c'est particulier. Chicago, c'était une ville faite pour le crossover.
Exactement.
Alors que là, les suppléments géographiques étaient faits, c'est-à-dire que voilà, on expliquait un pays, on expliquait une culture et on expliquait ce pays par le biais de, des créatures surnaturelles.
Chose qui était très populaire dans l'ancien monde des ténèbres.
Ouais, mais sur le coup.
De suppléments géographiques qui étaient sortis, et notamment.
Les trucs by night, etc.
Ouais. Voilà, il y a effectivement les trucs by night, et puis mais aussi, et carrément toute une gamme qui était centrée donc sur la culture asiatique. Donc là, effectivement,
mais je crois
à l'époque, la géographie.
Je crois que ces suppléments n'ont pas très bien marché en fait. Ces suppléments n'ont pas très bien marché et je crois qu'ils sont.
Il faut imaginer. Donc là, tu parles des suppléments de nouvelle gamme, donc Shadow of the UK.
Et Mexico et
Shadow of the UK. Donc parce que, le Mexico plutôt centré vampire et UK plutôt centré garou.
On n'a pas eu un troisième supplément qui a été centré mage, donc on pourrait peut-être penser que ça n'a pas très bien marché. Et par exemple, si vous faites un supplément historique, imaginez, bon, moi, vous faites un supplément médiéval, ça va forcément être l'Europe médiévale d'une certaine manière. Bah, en tout cas, après là, il faut
peut-être. Ou alors c'est.
Forte chance quand même, c'est des Amérindiens. Donc ils se disent que de façon. Je sais pas s'il serait partant, bon, ça, on va dire, ça limite un peu les possibilités. Je sais pas s'il trouvera beaucoup de public pour ça, quoi.
Oui, parce qu'il faut voir que le marché du jeu de rôle est dans une situation quand même c'est de crise et donc c'est difficile vraiment. Tu viens de finir de parler, hein. Ah ouais. Donc, du coup, c'est difficile de vraiment trouver des choses qui se vendent tout simplement, quoi. Et je pense que si Requiem for Rome avait vraiment cartonné à mort, ils en auraient fait beaucoup des trucs historiques. Mais a priori, s'ils n'ont pas vu vraiment un intérêt commercial là-dedans, ben, peut-être qu'ils se disent il faut qu'on se tourne vers des choses qui fonctionnent. Quoi.
Qui est une justification commerciale ? Ça, je ne le nie pas. Hein. Je veux dire qu'effectivement, qu'ils se rendent compte que le jeu de rôle papier se vend moins bien, et du coup, ils en fassent moins, qu'ils ciblent effectivement plus, par exemple en testant avec du PDF, voir ce qui potentiellement. Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être vendu en essayant de minimiser les risques, ça je le comprends. Moi, là où je répondais à ta question tout à l'heure, c'est que tu disais il n'y a plus rien à faire. Si, il y a encore des choses à faire. Peut-être que les choses qui sont à faire ne vont pas se vendre aussi bien, et dans ce cas, White Wolf ne le fera pas. Il y a encore plein de choses à faire.
Donc ça ne répond pas à leur public, finalement, si
alors,
ça se vend pas.
Alors, effectivement, je comprends effectivement pourquoi White Wolf le fait, ça ne va pas. Pas pour autant dire que je suis content qu'il le fasse. Quoi.
En parlant de ça justement, maintenant on peut voir qu'à peu près toutes les gammes sont à peu près finies. Enfin, en tout cas, tous les suppléments nécessaires pour les gammes ont été faits. On peut dire que.
Enfin, même si je pense qu'il y a encore effectivement des choses à dire sur chaque gamme, mais en tout cas, effectivement, on peut pratiquement considérer aujourd'hui qu'elles sont clôturées. Voilà.
Parce que là, tu disais, Hospice, on connaît déjà, c'est bon, c'est fait quoi.
Alors, c'est le plus étonnant, je pense que c'est que. Alors, c'est quelque chose moi qui m'étonne beaucoup. C'est que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, je vais parler par exemple de Loup-Garou parce que tu parles effectivement de Hospice. Qui est une gamme que je connais bien, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire.
Ils les font pas, c'est ça que tu veux dire.
Et c'est ça, ils le font pas. Au lieu de ça, ils préfèrent faire des redites. Et là, je suis assez étonné. Alors, est-ce que c'est parce que lié à leur activité nouvelle dont on parlera tout à l'heure, est-ce qu'il y a moins de gens sur l'équipe créative, donc sur l'écriture de suppléments papier ou de PDF, et que du coup, moins de gens, ça fait moins de personnes inspirées, ça fait aussi moins de choses à dire. Ça je sais pas.
Alors moi j'ai peut-être une théorie, c'est que puisqu'ils ont à peu près fini leur gamme, je pense aussi c'est que si on retourne en arrière et qu'on parle du Wodin, à la fin le Wodin était d'une certaine manière, ils l'ont terminé. Aussi d'une certaine façon c'est assez simple, c'est aussi parce que le coût d'entrée dans ces univers était trop élevé, le nombre de suppléments, le nombre de trucs à comprendre était trop élevé, donc d'une certaine manière il y a aussi la volonté de pas étouffer des joueurs potentiels avec plein de suppléments. Imagine, Vampire Requiem, il y a je sais pas combien de suppléments. Imagine, il y en a 50-60. Le nouveau joueur potentiel qui est intéressé par ça, il va flipper quoi.
Donc une espèce de nécessité structurelle,
une nécessité de pas se
de faire une table rase.
Voilà. Donc maintenant ils sont, je pense qu'en fait ils sont un peu dans un cas de figure où ils ont à peu près tout parlé, ils ont à peu près tout mis le nécessaire. Il y a déjà énormément de trucs. Bon, ouais, donc il faut qu'il s'arrête un petit peu pour pas étouffer le joueur, mais en même temps, c'est une entreprise de JDR, enfin voilà, c'est une boîte d'édition, et donc il faut qu'ils éditent comme pour exister, et puis il faut qu'ils maintiennent un peu l'énergie créative de leur, des mecs qui travaillent pour eux. Donc ils sont un peu entre les deux, ils doivent jouer à peu près entre deux extrêmes et qui se rapprochent de plus en plus. Voilà.
Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'en effet, il y a un souci de lisibilité, comme tu l'as dit, pour les nouveaux joueurs, entre guillemets. Et c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, je trouve que ça devient, entre guillemets, assez monolithique. Pourquoi est-ce que White Wolf ne se tourne pas vers autre chose? Ils ont essayé Exalted, ils ont essayé
Sion
aussi.
Sion a bien marché.
Pourquoi ne pas, finalement,
faire un nouvel univers,
voilà, exactement, de nouvelles choses en jeu de rôle qui
ne serait pas forcément lié à le reste de la production.
Voilà, exactement.
Bah, comme l'est en fait la gamme Sion, finalement.
Voilà. Et ils l'ont fait par le passé avec les gammes Aberrant, Aventure, Trinity, voilà, qui avaient très bien marché, qui ont un succès critique assez énorme et même public. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours cette possibilité là.
En tout cas, voilà, est-ce qu'il reste des choses à faire ou pas dans le jeu de rôle pour White Wolf? On va vous laisser juger, mais après la pause, on va vous parler un petit peu de la réponse qu'ils ont donnée, hein, plus ou moins, puisqu'ils ont annoncé, donc on vous parlait de The Grand Masquerade, hein, qui s'est donné du 23 au 26 septembre. Ils l'ont annoncé ainsi, 19 ans, des milliers de cartes, des centaines de jeux de rôle, des douzaines de romans, deux jeux vidéo avec des prix, une série télé culte, des légions de fans.
Ils parlent de leur
mais attention
qu'ils ont fait.
Mais attention, pour tout ça, un seul futur: Darkness Revealed. Retrouvez-nous après la pause.